VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du mardi 27 octobre 2015. Au sommaire ce soir...
De nouvelles violences font au moins 7 morts dans la capitale centrafricaine.
Cette nouvelle tension a occasionné ce mardi la fermeture de plusieurs écoles, des établissements bancaires et de certains commerces.
Au Burundi, les derniers affrontements entre forces de l'ordre et insurgés ont fait au moins 4 morts.
République du Congo, oui massif au référendum de dimanche, selon les autorités.
Vous avez vu qu'il y a eu un sursaut de la population, y compris dans la partie sud du pays où l'on redoutait effectivement un vide.
En Côte d'Ivoire, les résultats commencent à tomber au compte-gouttes 2 jours après la présidentielle.
Le bilan du séisme en Asie du Sud s'alourdit. On parle aujourd'hui de plus de 350 morts.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
En République centrafricaine, au moins 7 personnes ont été tuées, des habitations et commerces incendiés, des barricades érigées sur plusieurs avenues. C'est le bilan des violences d'hier à aujourd'hui dans une partie de la capitale Bangui. Tout est parti de l'assassinat de 3 jeunes dans le quartier musulman du PK5, apparemment en représailles à l'attaque près de l'aéroport de Bangui, qui aurait fait 3 morts au sein d'une délégation de l'UPC, un groupe armé du centre du pays. Le gouvernement centrafricain appelle au calme. Précision, Freeman Sipila.
Ce mardi matin, des mouvements de protestation ont éclaté dans le deuxième et une partie du premier arrondissement, occasionnant des heurts avec des forces de l'ordre de la MINUSCA. Un des manifestants appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités.
Quand on nous dit qu'on ouvre les enquêtes et machin et tout, mais sincèrement, ces enquêtes-là, c'est pour quand? Je demande aux autorités de prendre leurs responsabilités.
Dénonçant cette nouvelle flambée de violence, le porte-parole du gouvernement, Dominique Saïd Paguindi, appelle la population au calme et à la retenue.
Le gouvernement condamne avec force cette violence inutile qui n'a pas d'autre but que d'instaurer la terreur et le chaos. Le gouvernement lance un appel au calme et à la retenue. L'érection des barricades n'est pas une solution.
Cette nouvelle tension a occasionné ce mardi la fermeture de plusieurs écoles, des établissements bancaires et de certains commerces. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Burundi, les affrontements entre forces de l'ordre et insurgés se poursuivent dans le centre du pays, fief du pouvoir. Des heurts ont tué au moins 3 assaillants et un policier. Et c'est ce que rapporte l'AFP, citant une source militaire. Une 50aine d'hommes armés auraient attaqué la commune de Nyabdihanga, provoquant des échanges avec la police. Il s'agit de la première attaque des insurgés dans cette région. Par ailleurs, dans la capitale Bujumbura, au moins 3 personnes ont été tuées et une 15aine blessées depuis lundi.
Au Congo-Brazzaville, les résultats officiels du référendum de dimanche ont été annoncés ce matin. Le oui l'a emporté à 92,26% avec un taux de participation de 72,44%. Cela a provoqué une levée de boucliers chez les opposants congolais. Idriss Fall.
Ces résultats sont nuls et de nul effet, d'après Guy Romain Kinfoussia, porte-parole du FRONCAD, une coalition de l'opposition qui entend continuer la désobéissance civile jusqu'au retrait du projet. C'est le même son de cloche pour une autre coalition d'opposition, l'Initiative pour la démocratie au Congo, mise en place en août par des dissidents et anciens alliés du président Sassou Nguesso. D'ailleurs, 2 de ses leaders, Guy Brice Parfait Kolela et André Okombi Salissa, sont assignés à résidence à Brazzaville. Se prononçant depuis Paris, Charles Zachary Bowayo, un transfuge du PCT, affirme que ces résultats vont à l'encontre de la réalité et de la vérité. Pour lui, il ne s'agissait pas de référendum, mais de coup d'État. Le Quai d'Orsay a dit prendre note des résultats annoncés ce matin. Avant ce scrutin, le président François Hollande avait exprimé son souhait que les constitutions soient respectées et que les consultations se tiennent dans des conditions de transparence incontestables.
Et nous partons maintenant en Côte d'Ivoire où les premiers résultats tombent timidement 2 jours après la présidentielle. Sur place, à Abidjan, notre envoyée spéciale Tatiana Mousseau.
Des pourcentages tombent au fur et à mesure, parfois ville par ville. Sur le site d'information abidjan.net, par exemple, est donné le résultat pour la ville de Bongouanou, où Afin Guessant du FPI remporte 59,5% des suffrages contre 38% pour Alassane Ouattara. Autre exemple, à Tekoubé-Cocody, où cette fois c'est Ado, Alassane Ouattara, qui est en tête devant Conan Kouadio-Berta. Des résultats partiels égrenés, donc très lentement, mais qui ne correspondent toujours pas à des résultats d'ensemble. Parallèlement, le débat autour du taux de participation reste entier. 60% annoncé hier par la commission électorale indépendante contre 53% avancé par la société civile. La commission électorale indépendante devrait clore cette polémique une bonne fois pour toutes lors de la proclamation des résultats définitifs qu'elle avait annoncé, je vous le rappelle, avant le scrutin pour ce mardi. Différentes sources déclarent au niveau de la CEOI qu'il faudrait encore attendre jusqu'à tard ce soir pour savoir si Alassane Ouattara, donné favori de ce scrutin, remporterait ainsi son second mandat.
Tatiana Mosso, notre envoyée spéciale à Abidjan.
Présidentielle en Tanzanie, les résultats commencent à tomber. Un premier décompte des voix d'environ 10% des circonscriptions indique que le candidat du parti au pouvoir, John Magufuli, devant ses adversaires. Les résultats définitifs sont attendus jeudi. Certains observateurs craignent que ce scrutin ne débouche sur des violences, notamment sur l'archipel semi-autonome de Zanzibar, où le principal parti d'opposition a revendiqué la victoire dès lundi. Les forces de sécurité ont encerclé le principal centre de décompte des bulletins de vote de l'archipel, empêchant la presse d'y entrer ou d'en sortir.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, les secouristes peinent à atteindre les zones isolées touchées par le séisme de magnitude 7,5 qui a fait plus de 350 morts au Pakistan et en Afghanistan. On fait le point avec Nathalie Barge.
Des enterrements collectifs ont été organisés dans les deux pays, rapporte l'AFP. Certaines zones restent entièrement coupées du monde. En Afghanistan, les zones montagneuses sinistrées sont difficiles d'accès, comme le Badakhshan, qui est contrôlé par les talibans, compliquant les opérations de secours. Ces derniers se sont toutefois engagés à aider les sinistrés. Le Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif, rentré aujourd'hui d'une visite aux États-Unis, a promis des compensations aux survivants du séisme au Pakistan. Nawaz Sharif s'est rendu dans la région de Shangla, probablement la plus touchée au Pakistan, avec au moins 49 morts. Dans le village de Gandao, presque toutes les maisons ont été endommagées. Le Croissant Rouge pakistanais, qui achemine des couvertures et autres équipements de base vers le nord-ouest du pays, peine à atteindre certaines zones enneigées. À Chitral, plus de 80 000 personnes n'ont plus accès à l'eau potable, selon les autorités locales.
Au Yémen, des frappes de la coalition menées par l'Arabie Saoudite ont touché un hôpital de Médecins Sans Frontières à Sanaa, la capitale. Selon l'ONG, des patients et employés se trouvaient à l'intérieur du bâtiment, mais elle n'a fait état d'aucune victime. La coalition arabe a lancé une campagne en mars au Yémen pour déloger les rebelles chiites houthis, ayant contraint à l'exil le gouvernement du président Mansour Hadi. Récemment, un hôpital de MSF à Kunduz en Afghanistan avait été attaqué par les forces américaines. Bilan, 30 morts. Une enquête internationale est en cours.
Un destroyer lance-missile américain s'est approché en mer de Chine méridionale à 22 km d'un récif revendiqué par Pékin qui a immédiatement protesté. Lionel Guéhima.
Selon une source militaire américaine, la mission de USS Lassen s'est terminée sans incident. Et la Chine a dit avoir mené une surveillance du navire, l'a suivi, puis lui a lancé un avertissement. Le récif de Subi fait partie de l'archipel de Spratlys, qui est aussi revendiqué par Taïwan, le Vietnam et les Philippines. Ici à Washington, un porte-parole du Pentagone a précisé que le destroyer effectuait une mission de routine en mer de Chine méridionale, conformément au droit international, et que sa présence dans le secteur n'avait rien à voir avec la question de souveraineté sur ces îles. Mais le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Liu Kang, soutient que le USS Lassen est entré illégalement dans des eaux territoriales chinoises et que cet incident constituait une menace à la souveraineté chinoise.
Politique américaine, pour la première fois, le neurochirurgien Ben Carson devance chez les Républicains le milliardaire Donald Trump à l'échelle nationale. Dans un sondage New York Times, CBS News publié ce mardi, le seul candidat noir à la Maison-Blanche pour 2016 est crédité de 26% des intentions de vote parmi les électeurs républicains. Trump obtient 22%. Dans l'Iowa, où se tiendra la première élection primaire en février, Carson mène par 9%. 10 candidats briguent l'investiture du Parti républicain. Ils s'affronteront demain soir dans un nouveau débat télévisé.
Et toujours aux États-Unis, la Maison-Blanche et le Congrès, dominés par les républicains, se sont mis d'accord en principe sur un accord concernant le budget national. Le plan financerait le gouvernement fédéral jusqu'en mars 2017, soit 2 mois après le départ de Barack Obama. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Parlons maintenant économie avec John Lyndon.
Commençons par cette alerte du FMI. Dans son rapport régional semestriel publié mardi à Dakar, le Fonds monétaire international prône la prudence monétaire et la réduction des inégalités. Dans ce document intitulé « Faire face à un environnement qui se dégrade », l'institution financière énumère 3 facteurs de la croissance vigoureuse de la région au cours de la dernière décennie. Ce sont notamment l'amélioration considérable du climat des affaires et de l'environnement macroéconomique, le niveau élevé des cours des matières premières et les conditions financières mondiales particulièrement favorables. En Afrique du Sud, le gouvernement entend encourager l'implication des Noirs dans le secteur du diamant. C'est ce qui, selon le ministre sud-africain des Mines, justifie le lancement d'une association de jeunes entrepreneurs, noirs pour la plupart. Pour mener à bien leurs activités dans ce secteur, les Noirs peinent très souvent à trouver des financements, ce qui les oblige à se rabattre sur des banques pour des prêts, eux-mêmes parfois pas du tout faciles à obtenir. Il faut noter que l'Afrique du Sud est le 5e producteur mondial de diamants bruts. Terminons cette minute écho par les États-Unis où General Motors a annoncé ce mardi le rappel de plus de 1,4 million de véhicules produits de 1997 à 2004. À l'origine de ce rappel, un problème mécanique qui pourrait provoquer un incendie dans le compartiment moteur en cas de fuite d'huile. Au cours des 6 dernières années, pas moins de 19 blessés ont été enregistrés du fait de ces défauts techniques.
La Minute Éco, merci John Lyndon.
L'info sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Les sportifs centrafricains privés de sortie.
Oui, face à la difficile situation budgétaire à Bangui, les autorités de la transition ont décidé de ne plus financer jusqu'à la fin de l'année les sorties des athlètes centrafricains qui doivent participer notamment à des compétitions en dehors du pays. On écoute à ce sujet le ministre centrafricain Armel Sayo sur VOA Afrique.
Le pays est confronté à des tensions de trésorerie, nous le savons très bien, puisque nous sortons d'une crise et l'enveloppe financière de l'État est aussi resserrée. Mais la vraie raison est simplement sur le désenchantement des résultats obtenus au cours des plusieurs sportives que le pays a connu, ce qui a suscité cette décision. Cela n'exclut pas le fait que le pays va participer ou doit organiser des compétitions sur l'échelle nationale.
Armel Sayo, joint par Pascaline Mamoko.
Gonzalo Higuain, de retour en sélection argentine.
L'Argentine, privée de ses attaquants Lionel Messi et Sergio Aguero, a rappelé l'avant-centre Gonzalo Higuain pour ses rencontres qualificatives pour le Mondial 2018. Le sélectionneur argentin Gerardo Martino a aussi convoqué les 3 Parisiens, Di Maria, Pastore et Lavezzi. Je vous rappelle que l'Argentine recevra le Brésil le 12 novembre au stade Monumental de Buenos Aires et se déplacera en Colombie le 17. Les Argentins sont dans une mauvaise passe après une défaite à domicile contre l'Équateur 1-0 et un match nul au Paraguay 0-0. Ils sont 7e du classement sur 10 avec un seul point.
Tennis Masters féminin de Singapour.
En l'absence de Serena Williams, la Russe Maria Sharapova, 4e joueuse mondiale, s'est rapprochée des demi-finales en battant la Roumaine Simona Halep, le score 6-4-6-4.
Et le grand retour de la NBA.
Retour sur les parquets pour les basketteurs nord-américains. 4 mois après leur triomphe, les Golden State Warriors semblent avoir perdu de leur éclat. En juin, après avoir survolé la saison régulière, les Warriors avaient enthousiasmé la NBA en dominant Cleveland en finale, 4-2, remportant ainsi le 5e titre NBA de leur histoire, le premier depuis 1975. Pourtant, plus de 53% des managers généraux voient Cleveland remporter le titre cette saison. San Antonio champion NBA 2014, mais éliminé dès le premier tour des playoffs en 2015, est donné favori par 25% des dirigeants, tandis que Golden State n'a les faveurs que de près de 18% d'entre eux.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chérubin Dorsil et Morgane Diriec en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, Gabi, la Côte d'Ivoire.
Pour parler de la présidentielle, les tout premiers résultats commencent à tomber, Morgane, mais à compte-gouttes, les différentes délégations d'observateurs font leur rapport. Après la société civile qui a déclaré que le scrutin était apaisé avec une participation de 53%, l'Union africaine a aussi fait son bilan. Joséphine Charlotte Mayouma-Kala, représentante spéciale de la présidente de la Commission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, répond à notre envoyée spéciale, Tatiana Mosso.
De voir en Côte d'Ivoire se tenir des élections de manière tout à fait apaisée. C'était notre inquiétude, c'était l'inquiétude de la communauté internationale, mais depuis que ce processus a commencé, nous avons senti une chose qui peut se vérifier sur le terrain, c'était la volonté du peuple ivoirien de voir dans leur pays se tenir des élections apaisées. Nous avons eu l'occasion de travailler en tant qu'Union africaine, de travailler avec des femmes, de travailler avec des jeunes, de travailler avec les partis politiques, d'avoir des séances de travail de l'opposition, de travailler avec le parti au pouvoir. Je peux dire en résumé, c'est vraiment un pari gagné. Les Ivoiriens voulaient les élections apaisées par rapport à ce qui s'est passé il y a 5 ans par rapport à ce qui s'est passé il y a 10 ans, le climat qui prévalait dans ce pays, les Ivoiriens avaient très très peur.
Alors ce fut certes des élections apaisées, mais avec des problèmes non négligeables tels que 30% des tablettes biométriques qui ne fonctionnaient pas, une participation dont le taux entre 53 ou 60% fait encore polémique. Que dit l'Union africaine sur ces différents aspects ?
Je ne crois pas qu'on peut avoir de si tôt rapidement les élections parfaites. Il y a eu des imperfections, certes, il y a eu des améliorations aussi, mais il faut admettre que nous sommes dans une démocratie et il y a toujours, jusqu'à la dernière minute, il y a toujours des faiblesses qu'on peut déplorer, mais ce qui est important, c'est de pouvoir accompagner ces peuples, c'est de pouvoir améliorer les failles pour que quand même ces peuples ivoiriens comme les autres puissent maintenant aller vers une vraie réconciliation nationale, vers une cohésion sociale, parce qu'il y a certains problèmes entre les différentes communautés et il faut maintenant qu'on s'attelle de manière plus forte, si je peux m'exprimer ainsi.
Voilà, c'était Joséphine Charlotte Mayouma-Kala, représentante spéciale de la présidente de la Commission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Une rétrospective des dernières élections en Afrique et un avant-goût des autres à venir. Dans certains pays, la question du troisième mandat fait toujours débat. Qui sont ces présidents qui s'accrochent au pouvoir? Mettent-ils en péril la paix dans leur pays? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
République démocratique du Congo. estimant que Kinshasa ne respecte pas ses engagements, le M23 menace de se retirer de l'accord de Nairobi. Le leader du groupe, Bertrand Bissimwa, dit avoir saisi la conférence internationale sur la région des Grands Lacs pour qu'elle condamne et sanctionne le gouvernement congolais. Joint en Ouganda par Nathalie Barge, il dément par ailleurs les affirmations de la société civile du Nord Kivu, disant que le M23 a rejoint les ADF Nalu dans l'est de la RDC.
Cette société civile du Nord Kivu a bâti son prestige sur le racontar. Et comme vous le savez, madame, les militaires sont à des endroits où on peut facilement les identifier. Donc, ce racontar, la société civile, ne nous gêne pas, parce que nous savons que c'est des histoires qui ne sont pas vraies. Mais vous savez, madame, que nous étions le seul mouvement qui combattait ces ennemis, ces FDLR, pendant que M. Pavota les protégeait chez lui dans son village. Nous ne pouvons pas, en aucun cas, nous rallier à des criminels et génocidaires comme les ADF Nalu ou les FDLR. Nous sommes décidés à les combattre et nous continuerons à les combattre.
Militairement ou politiquement parlant?
Madame, nous avons commencé militairement, mais maintenant il est question de le faire politiquement et nous continuons la lutte politique. Maintenant que nous ne sommes plus là, tout le monde est en train de découvrir que le mal congolais est ailleurs qu'au M23.
Vous avez publié un communiqué disant que vous n'étiez pas satisfait que le gouvernement, selon vous, ne respectait pas ses engagements. Alors qu'est-ce qui ne va pas dans ce processus?
Madame, ça fait environ 2 ans que nous attendons la mise en œuvre des déclarations Nairobi. Nous avons mis en œuvre nos engagements et nous attendons que le gouvernement mette en œuvre le sien. Ça fait 2 ans que nous sommes encore au premier point qui concerne l'amnistie. Sur 11 points, il faut qu'un seul point puisse faire 2 ans de traitement. Vous comprenez qu'il va nous falloir 22 ans pour terminer la mise en œuvre des déclarations Nairobi. C'est pourquoi nous avons demandé au gouvernement de la République de prendre ses responsabilités en mettant en œuvre ses propres engagements. Maintenant, ils ont réussi à réduire les déclarations de Nairobi ou tout l'accord de Nairobi à une question de rapatriement. Eh bien, ce rapatriement doit se faire en respectant les déclarations de Nairobi.
Quand vous dites que la CIRGL devrait en tirer toutes les conséquences par rapport à ce constat que vous avez fait, qu'est-ce que vous voulez dire?
Nous voulons demander à la CIRGL de constater ce qui est déjà évident, parce que la CIRGL a appelé avec des ultimatums le gouvernement congolais. Chaque ultimatum qui est lancé pour 3 mois expiré et aujourd'hui nous ne savons plus dans quoi nous sommes. Ça signifie tout simplement de condamner l'attitude du gouvernement congolais et d'adopter une mesure de sanction contre le gouvernement congolais parce qu'il n'a pas respecté ses engagements.
Bertrand Bissimwa, président du M23.
Dans l'autre Congo, à Brazzaville, le gouvernement a publié ce matin les résultats du dernier scrutin référendaire et il en ressort que le oui l'emporte à plus de 92%. Le taux officiel de participation est de plus de 72%. Les partis de l'opposition ont appelé à l'annulation du vote qu'ils ont qualifié de fantaisiste. Mais pour le parti au pouvoir, le débat est désormais clos. Nguelen Goussou.
Pour les membres de la plateforme Focad IDC, les résultats du référendum publié ce matin ne sont que pure fantaisie. Dans leur déclaration, ils appellent à l'annulation du scrutin.
Bien que le président de la République ait reconnu lui-même un fort taux d'abstention, le ministre de l'Intérieur vient sans gêne de déclarer un taux de participation de 72,40% et de 92% de vote positif. Ce qui nous ramène ainsi loin en arrière à l'époque du monopartisme où le parti unique affectait au vote ses propres résultats fantaisistes et surréalistes. Décidément, le pouvoir ne semble pas avoir compris que les temps au Congo ont changé et que nous ne sommes plus en régime de parti unique. Les forces politiques et sociales opposées au changement de constitution déclarent nul et de nul effet l'objet et les résultats du simulacre référendaire.
Dans le camp du oui, la liesse est à son comble. Alain Moka, le président du groupe parlementaire PCT à l'Assemblée nationale, estime que ce résultat est l'expression même du peuple.
Ben c'est l'expression d'une population. Vous savez, en toute élection, il y a toujours le terme de la participation qui importe. Et tout le monde redoutait une très très faible participation. Et contrairement à ce qui s'est dit dans les ondes, vous avez vu qu'il y a eu un sursaut de la population. y compris dans la partie sud du pays où l'on redoutait effectivement un vide.
Ce référendum aura laissé une déchirure au sein de la classe politique qui appelle désormais au dialogue. Guy Romain Kimfusha du FOCAD.
Nous avons sollicité de M. Batili, que nous avons rencontré effectivement, que s'il voulait qu'on entre dans un échange avec lui, nous lui demandions au préalable de faire libérer nos camarades qui étaient encerclés par la force que je venais d'indiquer. M. Batili a essayé comme il a pu, il est là depuis samedi, et vous constatez que jusqu'à aujourd'hui, Parfait Kolela n'est pas libre.
Pierre Ngolo, le secrétaire général du Parti Congolais du Travail, sans triomphalisme, ne s'oppose pas à l'idée de se parler.
Nous apprécions les résultats sans triomphalisme. Sans triomphalisme. Parce que le plus important, c'est pas ce que nous gagnons. C'est la victoire du peuple congolais. Même à l'endroit des amis de l'opposition. Mais c'est des Congolais. Le référendum vient d'avoir lieu. Vous avez suivi que ceux qui ont dit non, ont dit non. Ceux qui se sont abstenus, se sont abstenus. Mais une majorité s'est dégagée.
Nguela Ngoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Une étude de l'Organisation mondiale de la santé ne finit pas d'interpeller. Elle concerne la consommation de viande rouge qui aurait une corrélation, avec les cancers du pancréas, de la prostate et le cancer colorectal. On écoute donc le docteur Kurt Streif, directeur des monographies au Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC de l'OMS, au micro de Jacques Aristide.
Les conclusions principales, c'est que la viande transformée, c'est maintenant classé comme cancérogène chez l'homme, alors que groupe 1, ça veut dire on sait maintenant qu'il y a vraiment un lien entre la consommation de la viande transformée et le cancer colorectal. Par contre, pour la viande rouge, il y avait aussi des indications fortes, mais pas totalement concluantes. Comme ça, il y avait une classification 2A, ça veut dire probablement cancérogène chez l'homme. Et c'était observé aussi pour le cancer colorectal.
L'étude classe donc la viande parmi les produits du groupe 1, soit le groupe du tabac, même si le tabac demeure bien plus cancérigène qu'un steak. Faut-il donc éviter toute psychose pour ce qui est de la consommation de la viande rouge ?
Oui, nous avons vraiment essayé d'être très clairs que c'est vraiment classé comme groupe 1, comme vous avez dit, le tabagisme ou l'exposition à l'amiante. Mais par contre, le risque quantitatif n'est pas si important. Je peux vous expliquer pour une portion de, 50 grammes de viande transformée consommée chaque jour, il y a une augmentation du risque d'à peu près 17% pour le cancer colorectal. Mais de plus on mange, de plus le risque augmente.
Qu'y a-t-il de nouveau donc dans vos recommandations ? Et ces recommandations sont-elles par exemple applicables à un continent comme l'Afrique ?
Tout d'abord, on a eu des études épidémiologiques en lien avec le cancer. Ils incluent des données sur la consommation dans des continents différents. Et en effet, en Afrique, le pourcentage des personnes qui mangent de la viande chaque jour est beaucoup plus bas. Mais dans les consommateurs, la viande mangée chaque jour, c'est à peu près le même. Alors, il y a des groupes de la population, même en Afrique, qui mangent beaucoup de la viande rouge ou de la viande transformée.
Donc, en gros, docteur, ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'interdisez pas aux gens de manger de la viande, mais la modération est de mise.
Ce n'est pas à nous de faire des recommandations après. Ce sera maintenant à l'OMS ou les autres gouvernements de prendre ça en compte pour faire des recommandations, ce qu'on mange ou non.
Le docteur Kurt Streif, directeur des monographies au CIRC de l'OMS, joint à Lyon, en France.
Salut les amis, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. On remercie Joselle Morissin à la mise en onde, à la console Nachouane Calais, présentation Morgane Guériac et chez Robin Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.